Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer.
Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. D'abord les titres de ce journal. Exploit historique, la RDC en 16e de finale du mondial. Première qualification de son histoire après une victoire 3-1 contre l'Ouzbékistan à Atlanta en Géorgie. Examen d'État 2026, les enseignants exigent une hausse salariale. L'intersyndicale réclame l'augmentation dès juillet et la signature du statut particulier. Prix Ubora 2026, 4 entreprises congolaises distinguées. L'incubateur I&Fi, à travers son directeur général Val Massamba, qui est l'invité de ce journal, ensemble avec ses partenaires, célèbre l'excellence entrepreneuriale en RDC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal dominical du matin sur la radio de la paix. C'est un exploit historique. Pour la toute première fois de son histoire, la République démocratique du Congo a décroché son billet pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Les Congolais ont dominé les Ouzbèques sur les scores de 3-1 à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe du groupe K. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
C'est à la 10e minute de jeu que l'Ouzbékistan a ouvert les scores grâce à son attaquant Chomourodov. L'arbitre a renvoyé les 22 acteurs au vestiaire sur cette petite avance de l'Ouzbékistan. Au retour de la pause, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a renforcé la ligne offensive avec l'entrée de Fiston Mayele et Meshak Elia. Ses coachings a payé à la 68e minute de jeu avec les pénalties transformées par Johan Wissa. Les Congolais ont maintenu la pression sur leur adversaire avant de prendre l'avantage au Marquois grâce à la réalisation de Fiston Mayele qui, après une frappe détournée de Meshak Elia, a réussi à tromper les portiers ouzbèques. À la 90e minute de jeu, Johan Wissa a marqué le but du break, signant ainsi son doublé dans cette rencontre. Cette qualification a provoqué la joie des Congolais qui désormais croient à la poursuite de l'aventure de leur pays en cette Coupe du Monde.
Au début c'était un peu compliqué mais après ça s'est bien passé. Et puis avec les joueurs qui sont là, l'équipe est vraiment très bonne et on aime beaucoup. Cette équipe peut aller encore loin.
Les Léopards terminent ainsi avec 4 unités, synonyme des meilleurs 3e de cette phase de groupe. La RDC va croiser l'Angleterre en 16e de finale de cette compétition. Dans l'autre affiche du groupe K, le Portugal et la Colombie se sont neutralisés sous les scores de 0 buts partout. La Colombie termine première de la poule avec 7 points, suivi du Portugal, 5 unités et la RDC ferme le tiercé gagnant avec 4 points.
Autre actualité, la publication des résultats de l'examen d'État 2026 à travers tout le territoire national. À Latin Philo, par exemple, le lauréat a obtenu 80% au lycée Sainte-Thérèse à Kinshasa-Tchangou. En pédagogie générale, le lauréat est crédité de 89% à l'Institut Imani dans la province éducationnelle Okatanga 1. Tandis que dans la province éducationnelle Kasaï-Oriental 2, au lycée d'Itabadietou, le lauréat à la nutrition a obtenu 70%. Cependant, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale monte au créneau. Elle exige une augmentation des salaires des enseignants dès la paye du mois de juillet. Le porte-parole de cette structure a réitéré cette requête lors de l'Assemblée générale d'évaluation de l'année scolaire 2025-2026 tenue hier samedi à Kinshasa. Godefroy Matondo recommande également la signature du décret portant statut particulier des enseignants et celui des inspecteurs avant la rentrée scolaire 2026-2027. Godefroy Matondo au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
L'intersyndicale recommande au gouvernement de la République ce qui suit. 1. L'augmentation des salaires des enseignants dès la paye du mois de juillet 2026, conformément à la loi des finances 2022. 2. La surséance du décret fixant les modalités d'affiliation au régime d'assurance maladie obligatoire en République démocratique du Congo. Étant donné la spécificité de notre ministère, sollicitons une séance du travail avec les chefs du gouvernement sur les réflexions les plus approfondies. 3. La signature du décret portant statut particulier des enseignants et celui des inspecteurs avant la rentrée scolaire 2026-2027. 4. Les paiements des enseignants NP, NI, des intervenants des évaluations certificatives, des primes des inspecteurs et le deuxième palier de la prime d'encadrement de la paie des cadres et agents des services centraux. 5. La mise en retraite des enseignants par le gouvernement en vue de combattre le vieillissement constaté et déploré dans les établissements publics d'enseignement. 6. Une assemblée générale des décisions est prévue au mois d'août 2026.
Par ailleurs, cette organisation note qu'il est nécessaire que l'État publie les résultats de la mission de nettoyage du fichier des payes des enseignants afin de dégager la masse salariale tant attendue. Parlons à présent de cette alerte dans l'est de la RDC. Ebola progresse et la faim s'intensifie. C'est l'Organisation des Nations Unies qui l'a dit. Selon une information de l'ONU publiée ce jour, la double crise sanitaire et alimentaire atteint un niveau critique, notamment en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les points dans ce papier de Gisèle Cage, lu par Ella Chembalo.
En République démocratique du Congo, la situation se détériore à grande vitesse. D'après l'ONU, dans une information publiée aujourd'hui, l'épidémie d'Ebola s'étend, passant de 29 à 33 zones de santé touchées en une semaine. Mais derrière le virus, une autre urgence se joue, la faim. Près de 2,9 millions de personnes dans ces zones sont en insécurité alimentaire aiguë. Et au total, dans l'est du pays, 8,7 millions d'habitants peinent à se nourrir correctement. En Ituri, la situation est qualifiée de critique. Plus d'un million des personnes ont besoin d'une aide alimentaire urgente. Ebola et faim se renforcent mutuellement. Côté sanitaire, le seuil de 1000 cas confirmés a été franchi, avec 267 décès. Un chiffre record pour un début d'épidémie en RDC. Selon l'OMS, les centres de traitement sont sous pression, avec des lits occupés à plus de 80%. Cette crise s'explique aussi par un contexte explosif. Insécurité persistante, manque de financement et marché perturbé. Les restrictions liées à Ebola ralentissent les échanges entre une flambée des prix. Sur le terrain, l'aide reste insuffisante. Moins d'un tiers des familles touchées reçoivent un soutien alimentaire. Face à cette situation, l'ONU appelle à une mobilisation urgente. Ebola progresse, la faim aussi, et l'urgence, elle, est totale.
Une autre alerte est lancée cette fois par l'Organisation internationale pour les migrants. L'OIM souligne en effet que la forte mobilité des populations accentuée par les conflits accroît les risques de propagation du virus Ebola. Dans un communiqué publié vendredi, l'organisation dévoile un plan régional de préparation et de riposte contre Ebola afin de renforcer la lutte contre l'épidémie. Cette épidémie qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo et s'est déjà propagée en Ouganda. L'agence onusienne annonce vouloir mobiliser 55,8 millions de dollars pour soutenir durant 6 mois les opérations de surveillance, la protection des populations en déplacement et le contrôle de la propagation du virus dans 11 pays. Plus de détails encore avec vous et la Chembalo.
Dans son communiqué, l'OIM précise que ce plan régional de 6 mois vise à intensifier la lutte contre Ebola dans l'est de la RDC et en Ouganda. Pour mettre en œuvre cette stratégie couvrant 11 pays, l'organisation sollicite 55,8 millions de dollars. À ce jour, 20 millions ont été déjà mobilisés, laissant un déficit d'environ 35 millions. L'OIM souligne que la forte mobilité des populations, accentuée par les conflits, accroît les risques de propagation du virus. Elle rappelle avoir déjà réalisé plus d'un million de contrôles sanitaires au point d'entrée et le long des principaux axes transfrontaliers. L'agence insiste sur l'importance de renforcer la surveillance, le dépistage et la sensibilisation des communautés. Cette mobilisation intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé a classé la flambée actuelle d'Ebola comme une urgence de santé publique de portée internationale. De leur côté, les autorités congolaises assurent que la situation reste maîtrisée et mettent en avant l'expérience acquise par la RDC dans la gestion des précédentes épidémies.
Un exemple de terrain à présent, nous allons en Ituri évidemment, là où la maladie à virus Ebola a commencé, là où hélas, les équipes engagées dans la lutte contre Ebola sont confrontées à plusieurs défis malgré leur soif de vaincre la maladie. À Nizi, précisément dans le territoire de Djougou, les autorités sanitaires alertent sur la poursuite de la transmission du virus et le manque d'infrastructures indispensables pour une prise en charge efficace. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
La situation demeure préoccupante dans la zone de santé de Nizi, au nord de Bounia. Les responsables sanitaires font état de décès communautaires enregistrés presque quotidiennement, signe que le virus continue de circuler activement au sein de la population. Face à cette évolution, le médecin-chef des zones de santé de Nizi tire la sonnette d'alarme. Il dénonce le manque de personnel, de moyens logistiques et des ressources financières. Plus préoccupante encore, la zone ne dispose ni d'un centre de traitement d'Ebola, ni d'un laboratoire capable d'analyser rapidement les prélèvements alors qu'aucun patient n'y a encore été déclaré guéri. Le médecin plaide pour l'installation urgente de ces infrastructures à Nizi ainsi que des centres de transit à Lopa, Linji et Higa Barrière afin d'améliorer la prise en charge des malades et de limiter la propagation du virus. Selon les dernières statistiques de l'Institut National de Santé Publique, la zone de santé de Nizi compte déjà 30 cas confirmés dont 6 décès. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capital.
Une nouvelle un peu plus gaie. C'est le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui assiste plus de 5000 ménages vulnérables. Nous sommes là dans le Tanganyika. Ces personnes affectées par des conflits ont reçu du cash et d'un tronc agricole dans les zones de santé de Kalemi et Niemba. Ce projet est financé par le Fonds humanitaire en RDC et il entre dans le cadre du projet d'assistance vitale à la production agricole d'urgence en RDC. Des précisions avec Paulin Munanga.
D'après la FAO, l'objectif est de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire, d'améliorer la consommation alimentaire des ménages bénéficiaires et de protéger leurs moyens de subsistance grâce à une production agricole d'urgence. Ce projet est une réponse rapide aux besoins des populations affectées par les conflits. Les bénéficiaires ont reçu du cash, des semences maraîchères, d'intrants agricoles ainsi que plusieurs outils aratoires, notamment des brouettes, râteaux, houes, arrosoirs, bêches et autres équipements destiné à faciliter la production agricole d'urgence. Les bénéficiaires, dont la plupart vivent depuis des années les conséquences des conflits, saluent ces gestes du Fonds humanitaire en RDC et de la FAO. Le ministre provincial des Affaires sociales et Action humanitaire du Tanganyika, Dr Benoît Malumbi, souligne que l'intégration de la composante agricole dans les interventions d'urgence va permettre aux bénéficiaires de produire rapidement des denrées alimentaires et d'améliorer leurs conditions de vie dès les premières semaines de mise en œuvre. Signalons que ces projet qui a débuté le 22 avril dernier va jusqu'au 21 octobre. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
8 militaires des FRDC prêts à affronter les engins explosifs de guerre à Beni. Ils ont achevé vendredi une formation spécialisée axée sur la neutralisation, l'enlèvement et la destruction de ces dispositifs dangereux. Formation organisée par le service de lutte antimine de la MONUSCO, UNMAS, dans le but de renforcer les capacités des bénéficiaires afin de mieux protéger les communautés face aux risques liés aux engins explosifs, déjà responsables de nombreuses victimes dans la région. Mais quelle utilité les participants accordent-ils à cette formation? Marc Marofimo nous en dit plus.
Après une première phase en avril, 6 semaines de formation ont permis à 8 militaires des FRDC de renforcer leurs capacités en identification, neutralisation et destruction des engins explosifs. Pour le capitaine Paluku Kalubenge Sylvestre, participant, cette formation est essentielle pour sécuriser les populations.
Cette formation nous est utile. Nous devrons maintenant jouer le rôle de la sonnette d'alarme pour l'enlèvement des engins non explosifs. La MONUSCO a fait sa partition. Elle nous a donné la matière, quitte à nous maintenant de la capitaliser.
Le vice-gouverneur du Nord Kivu a salué cet appui et souhaitait voir ce type de formation s'étendre à la police nationale. Le commissaire divisionnaire Louis Sego Karawa.
Votre mission sera désormais de mettre ces savoirs au service de la nation, de vos frères d'armes et de la protection des populations civiles. Je saisis cette opportunité pour demander à UNMAS d'étendre ses formations aux unités de la police nationale congolaise et au centre congolais de lutte antimine afin de répondre aux besoins quotidiens de la sécurité des civils dans les zones anciennement sous le contrôle des groupes armés au Nord Kivu.
Une session spéciale est annoncée dans les prochains jours pour renforcer davantage ses compétences. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, c'est parti avec les travaux des revêtements de 850 km de la route nationale numéro 1 au Kasaï oriental. Un chantier qui s'étend du rond-point Petrombou à Mbujimayi jusqu'à Nguba dans la province du Lualaba. C'est le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, qui a procédé au lancement de ces travaux financés dans le cadre du programme sino-congolais et exécuté par l'entreprise CREC-7. Explication, Esther Ndalafina.
La réhabilitation de la RN1 en Boujimaï s'inscrit dans une stratégie de désenclavement et de modernisation du réseau routier du Grand Kassai. Elle vise à fluidifier la mobilité, renforcer les échanges commerciaux et consolider l'intégration régionale. Accompagné du directeur général de la CGT, Nikon Zao, le ministre a entamé sa visite au rond-point Petrombou où il a reçu un briefing technique sur l'état d'avancement des travaux. La veille, la caravane avait quitté Kananga au Kassai central pour parcourir les 190 km menant à Mbujimaï. En route, elle a marqué un arrêt sur le chantier de la RN42 Lac-Munkamba-Lusambo, un autre projet structurant destiné à ramener du trafic vers la RN1. Sur les 130 km prévus, les équipes ont déjà réalisé plus de 6 km de couche de base, notamment entre les points kilométriques PK0 et PK3. Profitant de la saison sèche, les travaux se concentrent sur la chaussée afin de permettre le lancement de l'asphaltage des 10 premiers kilomètres conformément au calendrier d'exécution. La caravane des infrastructures poursuivra sa route le dimanche prochain en direction de l'espace Katanga. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Ankara, les autorités ont incarcéré cette semaine 178 personnes dans le cadre d'un vaste coup de filet présenté comme une opération antiterroriste. Ces arrestations interviennent alors que la capitale turque doit accueillir le 7 et 8 juillet 2026 le sommet de l'OTAN auquel doivent participer tant de dirigeants dont le président américain Donald Trump. Les ONG dénoncent un climat de répression et la liste des interpellés inclut notamment des avocats, des syndicalistes et un journaliste.
L'invité.
Quatre entreprises congolaises récompensées jeudi à Kinshasa. Cela entre dans le cadre de la deuxième édition du prix Ubora, organisé par l'incubateur INFI, avec l'appui de plusieurs partenaires dont la Fondation Roi Baudouin et BioInvest. Ce concours vise à promouvoir l'excellence entrepreneuriale et la création des valeurs en RDC. Les lauréats recevront jusqu'à 25 000 euros ainsi qu'un voyage d'affaires en Europe. Comment ont-ils été sélectionnés parmi 383 candidatures? Quels enseignements tirer de cette édition? Les explications de Val Massamba, directeur général de l'incubateur INFI. Il s'entretient ici avec Jocelyne Moussaoponde.
Professeur Val Massamba, bonjour.
Bonjour, dame.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce prix et plus particulièrement de cette deuxième édition?
Ce qu'on peut retenir, c'est que l'effort et entrepreneurial est toujours récompensé. Quand vous avez le père ou un jury international de gens de haut niveau qui arrivent à vous sélectionner parmi les meilleurs, eh bien c'est une grâce, mais c'est parce que simplement vous avez fourni beaucoup d'efforts. Le prix Ubora récompense les entrepreneurs d'excellence, les entrepreneurs qui ont réussi à bien piloter leur PME, qui a un effort positif, un impact positif sur le développement du milieu dans lequel ils évoluent. Et donc la Fondation Roi Baudouin et BioInvest et la Fondation Adala nous a fait honneur de nous confier désormais l'organisation du prix Ubora à travers la RDC. Et voilà, pour la deuxième fois, on l'organise avec succès. Et puis voilà, on veut continuer et on encourage les entrepreneurs à fournir beaucoup plus d'efforts et pour essayer d'amener ce pays vers une indépendance économique.
Et combien de lauréats ont été sélectionnés et quels sont les prix qu'ils remportent?
Sur 383 candidatures que nous avons reçues, on a sélectionné 4 lauréats entrepreneurs. Dans les 4 lauréats entrepreneurs, il y a 2 de la catégorie PME qui sont toutes des femmes entrepreneurs et vont bénéficier chacune de 25 000 euros plus un voyage d'affaires en Europe en février 2027 comme ce fut pour la première édition. Et puis on a 2 autres lauréats de la catégorie nouvelle entreprise qui vont bénéficier d'une gratification de 5 000 euros plus encore ces voyages-là. On est content parce que ces 3 villes qui ont gagné, c'est la ville de Kinshasa, la ville de Bounia et la ville de Lubumbashi.
Et quels ont été les critères de sélection?
Oh, c'était lourd, hein. C'est, au total, ça fait à peu près 20 critères d'éligibilité et environ 40 critères de sélection. Donc c'était lourd qui passe par
le
climat, d'accord, l'effort fourni pour essayer de contribuer aux objectifs climat dans l'aspect écologique, la prise en compte du genre dans l'entreprise, la performance financière, la capacité à avoir un impact positif dans le milieu de l'école évolue. Il y a plusieurs critères et il y avait un critère discriminant à l'éligibilité, c'était l'obtention d'une assurance, responsabilité professionnelle et civile de l'entreprise, ce que beaucoup de PME n'avaient pas. Et puis il y a eu la visite d'entreprise pour essayer et la visite de manière instantanée des entreprises pour donner la crédibilité aux sélectionnés.
Et vous avez eu un appui financier pour pouvoir organiser ce concours?
Oui, d'abord nos propres ressources, parce que ça c'est un élément très important pour éviter la dépendance à d'autres. L'IF a mobilisé ses propres ressources pour rendre opérationnelle cette mission de prix Ubera. Après, on a eu le soutien de la Fondation Dala qui a donné un prix pour le PME. La Wallonie-Bruxelles qui a donné aussi un prix pour le PME. Et à Texaf, Fondation Bandeurnaviso Yakongo et Silicon Village qui ont aussi donné un prix pour cette activité. Il y a aussi Transform qui nous a donné un appui communicationnel très important dans son réseau pour inciter les entrepreneurs à postuler et bien d'autres partenaires qui étaient avec nous.
Professeur Val Massamba, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Voilà qui boucle notre journal de ce matin, coordonné et supervisé par Lévin Bouingavoubou et mise en onde par Pierre Diassinois.